l'évolution des sciences modernes.
L'idée, c'est de faire intervenir les gens qui sont, disons, à la pointe de la recherche.
Le sujet est lancé.
Alors la question est...
La tête.
Je voudrais savoir s'il y a des dangers à avoir une double vie.
Qu'est-ce que vous entendez par diversité humaine?
Oh, y a, y a.
La tête au carré.
Avec l'université de tous les savoirs.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Tête au carré réalisée par Violaine Ballet et préparée par Irène Menahem. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, de la sismographie pour étudier les planètes et les tsunamis et du théâtre autour des origines. On commencera dans quelques instants avec une visite de l'Institut de physique du globe de Paris en compagnie de l'Université de tous les savoirs et des élèves du lycée Condorcet de Montreuil. Je les ai retrouvés il y a quelques semaines pour une rencontre avec l'équipe de géophysique spatiale et planétaire dans le laboratoire situé à l'Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Nous ferons connaissance avec le planétologue Philippe Lognonnet, qui est responsable de l'équipe de géophysique spatiale et planétaire. Il nous expliquera comment se fait l'observation de la Terre et des planètes grâce au sismomètre, cet instrument qui mesure les vibrations du sol. Et puis nous parlerons de la détection des tsunamis depuis l'espace avec Giovanni Occhipinti, qui se présente comme sismologue exotique. Et puis dans la dernière partie de cette Tête au carré, nous retrouverons la chronique théâtre de Brigitte Patient, qui est allée voir pour nous cette semaine, le spectacle Origine de la compagnie Tourneboulet. C'est une fable philosophique et poétique pour les enfants à partir de 7 ans et qui s'intéresse à la question de nos origines. Mais pour commencer, en route vers l'Institut de physique du Globe de Paris.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Voilà, donc on va tout de suite démarrer. Et on commence d'ailleurs dans la neige aujourd'hui, dans ce site magnifique de l'Observatoire de Saint-Maur, avec donc les élèves du lycée Condorcet de Montreuil. Alors vous êtes de plusieurs classes, hein, c'est ça? Il y a des secondes, premières, terminales?
Absolument.
Et vous faites partie du club d'astronomie du lycée, c'est ça, Louis?
Non.
Non, pas du tout. Alors on m'a dit qu'il y avait un club d'astronomie dans le lycée. Alors qui en fait partie?
C'est lui, là.
Ah, il y en a qu'un, c'est Jeff.
Moi, effectivement, je fais partie du club d'astronomie, donc...
Qu'est-ce que vous faites dans ce club, Jeff, exactement?
On étudie le système solaire, les planètes, tout ce qui touche à l'astronomie. En fait, voilà.
Alors, vous êtes accompagné de vos professeurs Nicolas Descamps et M. Bessières,
effectivement,
qui sont professeurs de physique-chimie. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, donc, on va découvrir ce site avec notre premier scientifique qui est avec nous, Philippe Lognonnet. Bonjour.
Bonjour et puis bienvenue à l'Observatoire de Saint-Maur.
Dans le froid polaire de Saint-Maur, qui l'est cru.
Oui, dans le froid de Saint-Maur. Alors, donc, tout à l'heure, l'un des élèves disait qu'il faisait partie d'un club d'astronomie. Donc, c'est un observatoire ici, mais c'est un observatoire essentiellement de sciences de la Terre depuis maintenant presque 110 ans.
Alors, je ne sais pas si vous avez fait connaissance avec tous les élèves. Donc, il y a Pierre, Nicolas, Kevin,
Benjamin,
bonjour, Jeff, Louis,
bonjour.
Irfan et donc les deux professeurs qui sont avec nous. Et on vous suit tout de suite parce qu'il fait très froid.
Alors, donc, cet observatoire fait partie de l'Institut de physique du Globe de Paris qui a plusieurs équipes dans ce site. Donc, une équipe dont je suis responsable qui travaille plutôt à l'exploration planétaire, à l'observation spatiale de la Terre. Une autre équipe travaille au paléomagnétisme et l'archéomagnétisme, c'est-à-dire comment essayer d'extraire des roches, des poteries, des enregistrements du champ magnétique du passé. Et enfin, jusqu'à peu, une équipe travaillait à tout ce qui est géomorphologie des rivières.
Et donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de la Terre, mais aussi de la Lune et de Mars.
Voilà. Sur Terre, nous travaillons beaucoup à la détection depuis l'espace des séismes et des raz-de-marée. Et évidemment, sur d'autres planètes où il faut utiliser les moyens classiques de la sismologie, des sismomètres, eh bien nous essayons de concevoir des instruments qui soient capables de survivre au voyage entre la Terre et puis Mars, la Lune ou un astéroïde.
Ah, et Catherine Oles de l'UTLS vient de nous rejoindre. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Ça va?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Allez-y. Alors, Pablo.
La tête au carré.
Une question pour toi.
Question.
Bienvenue.
Donc moi, c'était surtout une question.
On va changer de micro.
Tu as une opinion à ce sujet, toi? Ou quelqu'un a une opinion ici?
Non, c'était le bon micro, en fait. Donc on va revenir sur le micro vert. Tout va bien.
Sur France Inter.
Allez, on Et nous sommes donc cet après-midi à l'Institut de physique du globe de Paris, en compagnie de l'Université de tous les savoirs et des élèves aujourd'hui du lycée Condorcet de Montreuil. On retrouve Philippe Lognonnet, le responsable de l'équipe de géophysique spatiale et planétaire.
Donc avant de s'envoler vers les planètes, je vais vous proposer tout simplement de se tourner vers le passé, parce que le passé, c'est les débuts de la sismologie. Et donc, tout simplement pour commencer à avoir un des premiers sismomètres qui fonctionnait dans ce site. Donc, qu'est-ce que c'est un sismomètre d'abord? Un sismomètre, c'est quelque chose qui détecte les mouvements du sol. Les Chinois avaient commencé il y a 5-6 siècles avec tout simplement des sortes de petites billes. Et quand le sol bougeait, eh bien, la bille tombait. C'était le premier sismomètre. Et donc, à chaque fois, on utilise le même principe. Donc, on va commencer par voir des gros sismomètres, des sismomètres donc, qui ont 80... voire un siècle pour certains.
Allez, on vous suit.
Donc, il faut faire attention, on va dans une cave. Ce pavillon, donc c'est un pavillon un peu spécial, c'est un pavillon magnétique, parce qu'on faisait des mesures magnétiques, et donc il a été construit sans matériaux magnétiques, sans fer.
Et donc, nous descendons à la cave. Alors, est-ce qu'on peut rentrer tous ensemble,
Philippe ? On va essayer de rentrer tous ensemble.
Attention au fil, là.
Entrer, puis entourer... cet ancêtre. Donc nous avons ici un des premiers sismomètres qui a été installé dans ce parc. Alors on voit une grosse masse, un gros cylindre qui pèse 500 kg. Donc une demi-tonne de métal, c'est presque une voiture. Et cette masse qui va bouger permet de déplacer ces petites aiguilles ici. Ces aiguilles masquent un obturateur et cet obturateur envoyer un rayon lumineux à distance. Et donc, on avait un peu plus loin un papier photographique qui tournait et qui enregistrait le déplacement. Donc ici, vous avez la deuxième génération. La deuxième génération, entendons-nous, c'est un instrument de 1910. Donc, c'est un instrument qui fonctionnait à Saint-Maur. Et vous allez
voir... Qu'est-ce que c'est que cet objet?
Donc,
on dirait un parchemin.
D'abord, c'est du papier lumière. Papier lumière, c'est parmi les inventeurs de la photographie, du cinéma. Je vais vous montrer un malheureux séisme, donc qui est le grand séisme de Tokyo de 1923. Donc c'est un séisme presque magnitude 8. Alors, vous voyez, c'est du papier. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en général qu'il n'y a rien. Et puis tout d'un coup, vous voyez, le sol se met à trembler ici. Ça oscille de plus en plus. Et ce séisme-là, c'était tout simplement donc, ce séisme qui avait lieu à Tokyo en septembre 1923. Donc chaque jour correspond à un papier, à un rouleau de papier.
Donc ce sont les ondes ressenties ici,
voilà,
en France,
ce sont les ondes,
alors même que le séisme avait eu lieu au Japon.
Et donc ça permet de comprendre pourquoi la sismologie est intéressante, non seulement évidemment pour essayer de comprendre qu'il y a des séismes dans le monde, mais surtout pour essayer de déterminer la structure interne d'une planète. Parce que vous voyez, vous avez le Japon qui est pas
aux antipodes.
Aux antipodes, mais à 9 heures de décalage horaire. Donc on est assez loin quand même. Et ces ondes vont traverser la Terre, vont aller dans le manteau de la Terre, vont aller dans le noyau de la Terre. Et en fonction du temps de propagation de ces ondes, on pourra savoir si les ondes se propagent rapidement ou si les ondes voient un liquide. C'est comme ça qu'on a découvert que la Terre avait un noyau liquide. Et un peu plus tard, en 1936, c'est comme ça qu'on a découvert qu'au centre de ce noyau liquide, il y avait une petite graine solide. Donc, ça sert un petit peu à un instrument de radiographie.
Donc, vous attendez les séismes, finalement.
Alors,
c'est grâce à eux que vous pouvez avoir des informations. C'est malheureux de le dire.
C'est un peu malheureux de le dire.
Mais si je comprends bien, vous travaillez sur cette donnée-là, quand même.
Nous travaillons sur cette donnée-là. Et il est vrai que la plupart du temps, ces gros séismes ont lieu dans des zones inhabitées, malheureusement. Quelquefois, ces séismes ont lieu dans des zones habitées.
Comme récemment à Haïti
ou à Sumatra. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si la Terre n'était pas aussi active du point de vue géologique, si elle n'avait pas de tectonique des plaques, peut-être tout simplement, nous, la vie, ne serions pas encore là aujourd'hui sur Terre. Parce qu'il faut bien voir que la Terre active géologiquement montre tout simplement le fait qu'elle vit géologiquement. Et je crois que la vie sur une planète ne peut pas se passer en fait d'une certaine activité géologique.
J'ai pas bien compris pourquoi le fait qu'il y ait une activité sismique, ça pouvait être responsable de la vie ou...
Alors pas responsable de la vie, mais bon, alors ça c'est là on est dans la recherche, hein, et donc c'est un point de vue personnel de chercheur qui est évidemment discutable, discuté et sur lequel il y a beaucoup encore de travaux à faire. Mais les grandes idées sont les suivantes, c'est que en général, la vie a besoin d'eau, ça on le sait, donc il faut que la température soit entre 0 et 100 degrés, pas trop près de 0 et pas trop près de 100 hein, en général, mais disons qu'on est de l'eau liquide. Et puis aussi, il faut que la vie se nourrisse. Pour se nourrir, ce qui va se passer, c'est que si les sols ne sont pas renouvelés par une activité géologique, nous on le sait, quand on fait de l'agriculture, si vous ne renouvelez pas un sol, au bout d'un certain temps, le sol va s'appauvrir et ça, c'est... avec une durée de temps qui est celle de l'agriculteur. Mais si on réfléchit à ce qui va se passer sur une durée de temps du milliard d'années, eh bien, si les sols ne sont pas renouvelés par du volcanisme, eh bien, dans ce cas-là, à partir d'un certain moment, il n'y a plus assez, tout simplement, à manger pour la vie qui se développe. Donc il faut que la vie ait quelque part un petit peu de l'énergie. Et cette énergie, en général, on pense qu'elle vient de phénomènes telluriques.
Pierre, tu as une question à poser, je crois.
Oui. Tout à l'heure, par exemple, le séisme de 1923, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et pour que le sismographe il ait enregistré les ondes, il était quand même très précis.
Oui, alors les instruments à cette époque avaient la capacité de mesurer quelques microns. Aujourd'hui, on fait 1 million de fois mieux, voire peut-être un peu plus, que les instruments d'il y a 100 ans.
Et l'activité des séismes, Philippe, sur les autres planètes ou sur la Lune, il y en a beaucoup ?
Alors, sur les autres planètes, d'abord sur Mars, sur Vénus, les satellites de Jupiter, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas d'expérience qui ait fonctionné d'une manière positive. Je vais vous montrer tout à l'heure un instrument qu'on aurait bien aimé envoyer vers Mars en 1996, mais la fusée, a explosé. Et depuis, malheureusement, 1996, il y a eu plusieurs tentatives en Europe, aux États-Unis, qui à chaque fois se sont arrêtées, faute de budget ou faute de priorité donnée dans ces missions scientifiques. Donc, on en est un petit peu là pour Mars. On n'en sait rien et on ne sait pas trop quelle est l'activité. Pour la Lune, c'est très différent parce qu'il y a eu les grandes missions Apollo. Et à chaque fois qu'un atterrisseur Apollo se posait, vous avez une photo de ce LEM
qui se posait
sur la Lune. Ça, c'est du Apollo 11. Et ce que l'astronaute ici, en fait, est en train de faire, il est en train de déployer le premier sismomètre sur la Lune qui ait jamais été déployé, d'ailleurs, en dehors d'une planète. Donc, à votre réponse tout à l'heure, est-ce qu'il y a beaucoup de séismes sur la Lune ? Eh bien, étonnamment, si on met un sismomètre sur la Lune, on détectera plus de séismes sur la Lune qu'à Saint-Maur. Mais ces séismes sont tous très petits. Et en fait, ils sont tellement petits qu'on ne pourrait absolument pas les détecter ici. C'est des séismes de magnitude 0, de magnitude 1. Et en 7 années, les instruments Apollo ont détecté 14 000 séismes. Et la plupart des séismes étaient très bizarres, en fait. C'était des tout petits séismes qui venaient de très profond, vers 700, 800, 1000 km de profondeur, et qui étaient générés par la marée qui est exercée par la Terre sur la Lune. Ce n'est pas la marée qui exerce la Lune sur la Terre, celle qui fait que on peut aller pêcher à pied en Normandie, en Bretagne, mais c'est l'inverse, c'est la marée qui exerce la Terre sur la Lune. Et cette marée-là crée des petites déformations de la Lune qui la font craquer. Et c'est ces petits craquements, en fait, que ces instruments ont mesurés. Une planète se comporte un petit peu comme un fluide pour la marée et donc va un petit peu osciller comme ceci.
Louis, tu as une question.
Oui. En fait, ça sert à quoi de mesurer ce qu'il y a sur la Lune, l'activité sismique ?
Pour la Lune, la question principale, c'est bien comprendre comment la Lune s'est formée et donc quelle a été la contribution de la formation de la Lune à l'évolution du système Terre-Lune. On ne peut pas voir la Lune séparément de la Terre. Donc la Lune est vraiment liée à la Terre et mieux comprendre la structure interne de la Lune, c'est aussi mieux comprendre le système Terre-Lune. Donc il faut avoir des instruments qui mesurent les séismes de la Lune. La Lune est une planète qui est géologiquement presque morte. Le gros de l'activité volcanique de la Lune a eu lieu pendant le premier milliard, 1,5 milliard d'années après la formation de la Lune. Aujourd'hui, c'est une planète qui est presque morte. Et la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce que la Lune s'est formée ? Aujourd'hui, ce que l'on pense, c'est que la Lune s'est formée parce qu'une planète qui ressemblait à peu près à Mars, aussi grosse que Mars, est rentrée en collision avec la Terre. en rentrant en collision, cette planète a explosé en énormément de morceaux. Une grande partie de cette planète est allée rejoindre la Terre, donc a un peu enrichi la Terre. Et les débris se sont mis en orbite autour de la Terre. Et ces débris se sont reformés pour fabriquer la Lune. Et cette reformation de la Lune autour de la Terre s'est faite très rapidement, peut-être quelques mois.
Comment ça se fait que la Terre, elle aurait rien subi comme dégâts ?
Rassurez-vous, la Terre a subi des dégâts effroyables. On pense qu'à peu près la moitié de la surface de la Terre a été éjectée dans l'espace lors de l'impact. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'impacteur, la planète, est rentré dans la Terre jusqu'à aller dans le noyau de la Terre. Et donc toute la matière terrestre a bougé. Et évidemment, il n'y avait pas de vie à cette époque-là. Et s'il y avait eu de la vie à cette époque-là, ça aurait été la fin de la vie de cette époque. Alors ce qu'on pense, c'est qu'au début, quand les planètes se forment, elles sont dans un stade qu'on appelle un stade d'océan de magma, c'est-à-dire qu'à la surface de la planète, vous avez une mer, mais ce n'est pas une mer d'eau, c'est une mer de lave. Cette mer de lave va se refroidir, elle va former une croûte, et puis ensuite, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on a l'impression que soit les planètes vont être entourées de cette croûte qui va se comporter comme un couvercle, et elles vont évoluer vers des planètes à une plaque, soit au contraire, cette croûte va être cassée, il va y avoir des grands rouleaux, et ces grands rouleaux vont faire ce qu'on appelle la tectonique des plaques sur Terre. On pense que Mars et Vénus sont des planètes qui ont une seule plaque. Pour Mars, le couvercle est tellement gros que la planète a du mal à se refroidir et puis elle ne bouge pas beaucoup. Pour Vénus, ce qu'on pense, c'est que tous les peut-être 500 millions d'années, 600 millions d'années, le couvercle se fissure et vous avez un énorme volcanisme qui apparaît sur Vénus. C'est pour ça que la surface de Vénus est assez jeune, elle a moins d'un milliard d'années, alors que la surface de Mars est très vieille. Donc des planètes qui fonctionnent d'une manière complètement différente, et c'est pour ça aussi qu'on essaie de comprendre la structure interne des autres planètes. On ne le fait pas pour, savoir pourquoi elles ont un manteau, un noyau de telle taille, mais disons qu'on a une planète qui est la nôtre, on sait qu'elle fonctionne ainsi depuis 4 milliards d'années, et puis dans le système solaire, on a Vénus, où la température actuellement est de 450 degrés, donc il n'y a plus d'eau. Vénus a perdu toute son eau. On a Mars qui est très froid, où il y a eu peut-être un champ magnétique au début, mais très rapidement, la planète en fait, n'a pas réussi à maintenir une sorte d'environnement propice à la vie. Et donc, ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est comparer toutes ces planètes, comparer leur fonctionnement pour essayer de faire ce qu'on appelle la planétologie comparée, et donc comprendre vraiment comment les planètes telluriques fonctionne en général et non pas en particulier comme uniquement on le sait pour la Terre.
Allez, on poursuit.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions.
Elles vont venir en cours de route.
N'hésitez pas.
Oui, oui, oui.
Vous me posez des questions.
La tête au carré.
Carré. Sur France Inter.
Bien. Alors, maintenant, donc, on arrive à, plutôt dans la partie, spatiale de notre équipe.
Concrètement, d'ailleurs, Philippe, vous travaillez comment sur le spatial ? Quelle est votre contribution ?
Alors, la contribution de l'équipe est de concevoir les instruments.
Vous en avez envoyé combien dans l'espace ?
Alors, pour l'instant, on en a envoyé deux. Donc ici, vous avez à chaque fois qu'il y a une mission spatiale, donc on réalise ce qu'on appelle un modèle de rechange. On espère que les modèles ne vont pas tomber en panne, mais ça arrive de temps en temps. Et donc là, ce que vous avez une roue de secours de cette première mission qui s'appelait Mars 96. C'était une mission extrêmement ambitieuse dans laquelle il y avait deux petits atterrisseurs qui étaient chacun équipés de ce sismomètre que vous avez ici.
Donc cet appareil qu'on a devant nous, donc son frère jumeau qui a explosé dans la fusée, c'est ça ?
Voilà.
Devait partir sur la
planète
Mars.
Il devait partir sur Mars, donc en novembre 96. Et malheureusement, bon, il y a eu un problème et la fusée, du moins le satellite, est retombé dans le Pacifique. Et ça a été, bien sûr, une malheureuse expérience. Si vous regardez cet instrument de près, vous retrouvez toutes les idées que vous avez dans les instruments d'il y a un siècle. Vous avez un ressort, vous avez une masse, et puis vous avez un système électrique qui va mesurer le déplacement et transformer ce déplacement en un courant électrique. Le reste, ça semble des détails, mais ça va être des années et des années de travail pour essayer d'avoir des instruments qui résistent au lancement, qui résistent aux vibrations, qui vont résister aux variations de température, qui sont de plus en plus sensibles. Et donc, tout de suite, on est en train de faire un autre instrument que vous avez ici. Donc, cette fois-ci, vous voyez, il est un peu plus gros, mais cet instrument est censé être 1000 fois plus sensible que celui-là.
Cet instrument est destiné à être envoyé ?
Voilà, donc c'est un instrument qu'on est en train de mettre au point pour une mission japonaise qui est la mission Selene 2, qui consistait à envoyer autour de la Lune un orbiteur. Et donc vers 2015-2016, nos collègues japonais vont cette fois-ci envoyer un atterrisseur à la surface de la Lune qui va se poser et après cet atterrissage va déployer des instruments scientifiques. Il y aura un instrument pour mesurer les tremblements de la Lune. Et donc, ils nous ont contactés pour qu'on réalise une partie de cet instrument que vous avez sous vos yeux.
Et qui donc devrait partir en 2016.
Voilà, 2016, si tout va bien. Et donc, encore 5-6 ans de travail pour mettre au point cet instrument.
Bon, ben Philippe, on croise les doigts pour Selene 2, donc 2016, pour la Lune.
Eh bien, merci.
On pensera à vous. Merci pour toutes vos explications. Vous nous accompagnez peut-être voir Giovanni ?
Voilà.
Comme ça, on va aller dans son bureau pour parler des tsunamis.
Très bien.
Allez-y.
La tête au carré. Avec l'Université de tous les savoirs.
Tu serais intéressé, toi, par un métier dans ce domaine des planètes ou pas ?
Moi, c'est plutôt l'astronomie au niveau des exoplanètes, en fait, que je m'intéresse pour... savoir s'il n'y aurait pas de vie sur d'autres planètes par hasard. Voilà.
Est-ce que parmi vous, il y en a qui aimeraient faire vraiment une carrière scientifique ou pas ? Pierre ?
Ouais.
Dans quel domaine, toi ?
Aérospatial.
C'est-à-dire ?
Ingénieur.
Moi, je m'y intéresse, mais je ne sais pas vraiment exactement ce que je veux faire encore.
Pour l'instant, t'observe avant de choisir.
Pour l'instant, l'objectif, c'est le bac scientifique et puis après...
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc d'abord, je voudrais passer un petit bonjour à ma classe de terminale.
La tête au carré
avec l'Université de tous les savoirs.
C'est sur France Inter.
Les élèves ont travaillé, réfléchi et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de questions.
Bonjour, exactement, j'ai une question.
On est déjà rentré dans le bureau de Giovanni.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, c'est le bureau rouge, hein, c'est ça ?
Oui, apparemment connu comme le bureau rouge, oui. Vous pouvez tout de suite comprendre pourquoi. Effectivement, les murs sont tout en rouge. Ouais.
Voilà, donc je vous présente Giovanni Occhipinti.
Voilà, c'est bien
qui,
ça.
Qui, comme son nom l'indique, est italien.
Aussi appelé Ninto par des amis, mais vous pouvez m'appeler Giovanni.
Voilà. Sur Facebook, c'est Ninto, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Ouais.
Alors Giovanni, vous vous présentez comme sismologue exotique.
Oui, tout à fait. En fait, je suis un sort de chercheur hybride.
Ah oui ?
En fait, je suis un type sismologue, un type atmosphéricien, un type radariste... un petit peu ionosphéricien, on pourrait dire. Peut-être tous ces mots, ils ne vous disent pas grand-chose. C'est pour ça que je préfère, en fait, dire sismologue exotique. Pourquoi exotique ? Tout simplement parce qu'à la place de regarder les tremblements de terre et les tsunamis en regardant les sols à la surface, bah, je préfère regarder dans les nuages, en fait, dans la haute atmosphère et comprendre, en fait, ce qui se passe sur les sols en regardant... voilà, l'atmosphère et l'ionosphère en particulier.
Donc il y a le tableau du professeur dans le bureau de Giovanni.
Oui, strictement avec des craies, des crayons, parce que moi je suis un peu vintage.
Ah oui, c'est vrai, c'est du tableau à l'ancienne ça quand même. Hein. Ouais. Alors Giovanni, vous travaillez donc sur les tsunamis.
Oui.
Alors moi je ne savais pas qu'on pouvait détecter des tsunamis de l'espace.
Alors, en fait, très peu de gens le savent. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on essaie d'introduire ces nouvelles technologies peut-être dans les futurs systèmes d'alerte des tsunamis. Pour les améliorer, pour les rendre plus performants. Mais c'est clair que pour l'instant, il s'agit encore de techniques, on voit des développements, donc un peu expérimental pour l'instant. En fait, l'idée est née plus ou moins vers la moitié des années 70, mais a été juste évoquée au niveau théorique. Et personne n'a jamais travaillé dessus, surtout par l'absence de technologies capables de pouvoir détecter ces types de phénomènes. Et c'est seulement depuis, 2003, c'était la première, une première observation, mais elle était encore douteuse. et c'était le séisme du Sumatra en fait en 2004, avec l'énorme amplitude de la vague qui a très bien mis en évidence le phénomène dans l'atmosphère. Et donc on a fait des travaux justement pour valider que cette signature qui était observée sur la haute atmosphère a été bien liée au tsunami au sol.
Donc je vous laisse, professeur, devant votre tableau, c'est ça?
En fait, oui, on va essayer juste de voir étape par étape comme ces phénomènes de couplage a lieu, histoire de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de regarder quand on regarde l'atmosphère. En fait, dès qu'il y a un tremblement de terre en zone océanique, en fait, on a un déplacement de la surface océanique, comme un piston, en fait, fait déplacer aussi la surface de l'eau. Et là, c'est là, à ces moments-là, qu'on va générer une vague. C'est le tsunami qui commence à se déplacer. Ces déplacements de la surface d'eau entraînent, lors du mouvement, l'atmosphère dans un mouvement oscillatoire. Donc c'est la surface de l'eau qui est en train d'osciller et l'atmosphère commence à osciller avec les tsunamis. Et c'est justement à ce moment-là qu'il y a une onde ascendante qui va se générer. Et c'est à l'intérieur de cette ascension qu'on a la clé de la détection des tsunamis via l'espace. Parce qu'en fait, lors de cette ascension, l'onde, elle est fortement amplifiée. En fait, l'atmosphère agit comme une sorte de loupe qui nous permet de regarder l'océan où on ne voit pas la vague. Parce que c'est vrai que la vague de tsunami, elle est très très faible au niveau de l'eau. Elle est souvent couverte par des vagues quotidiennes qui sont plus petites en espacement, mais qui sont beaucoup plus importantes. Elles sont de l'ordre de 2 mètres, quelques mètres, là où le tsunami, par exemple, celui-là énorme de Sumatra, c'était que 50 cm, il était vraiment tout petit. Et donc on n'arrive pas à regarder les tsunamis sur la surface de l'eau, c'est très difficile. Par contre, en regardant depuis l'atmosphère, on a comme ajouté une grande loupe qui nous permet d'amplifier ce phénomène. Je peux vous montrer quelques exemples. On a des exemples, par exemple, ici, dans les cas de Sumatra. Celui-là, c'est les grands séismes de Sumatra, et on voit une grande perturbation au nord de l'île, qui apparaît en fait quelques 15 minutes après la génération de tsunami. Donc on a un temps très rapide de réponse, là où les techniques plus classiques prennent plus d'erreurs.
Est-ce qu'avec ces instruments, Giovanni, vous pourriez anticiper les tsunamis? Parce que là, c'est une observation au moment où ils se produisent. Mais est-ce que ces ondes là, générées dans l'atmosphère, on pourrait les observer avant vraiment le problème?
Dans ces cas-là, il ne s'agit pas d'une véritable prédiction au niveau de la source et de la rupture. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prévoir ni les tremblements de terre, ni les tsunamis. Par contre, on peut arriver à anticiper l'information sous l'arrivée de l'onde près des côtes. Parce qu'en fait, les tsunamis se déplacent très lentement, de l'ordre entre 100 et 200 mètres par seconde. Et donc, il se déplace très, très lentement. Et donc, du moment où les tsunamis ont été formés jusqu'à quand les tsunamis arrivent sur les côtes ou commencent à ravager, à ce moment-là, on a toute une marge de temps qui nous permet de nous organiser pour donner une réponse. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut agir parce qu'il faut vérifier la présence de tsunamis, surtout parce que donner des fausses alertes au niveau budgétaire, en fait, ça peut coûter beaucoup. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il doit y avoir des contrôles très, très stricts. En fait, les systèmes d'alerte sont organisés avec une première réponse qui est donnée par les réseaux sismiques, vu que les ondes sismiques se propagent très rapidement. Une fois qu'on a localisé le tremblement de terre et on sait qu'il est en zone océanique et qu'il pourrait générer un tsunami, à ce moment, la possibilité de tsunami doit être vérifiée par d'autres méthodes. Donc avec des bouées, avec d'autres types de capteurs, des marégraphes. Là où, par contre, nous, on propose la détection via l'ionosphère qui est plus rapide. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en train justement d'étudier cette signature qui, comme vous voyez dans l'image de tout à l'heure, elle est très évidente en fait. Cette signature très évidente, elle est très complexe. Et donc on est en train d'essayer de l'étudier plus en détail pour comprendre si en regardant l'atmosphère, on peut directement comprendre l'amplitude du tsunami au sol. Et pour faire cela en fait, on fait de la modélisation numérique. Donc on voit ici par exemple un tsunami qui génère une onde de gravité dans l'atmosphère. C'est cette onde qu'en fait on va mesurer, et cette onde va perturber la haute atmosphère, c'est-à-dire l'ionosphère, et c'est là qu'on pourra la détecter. Ici, c'est le cas de Sumatra. On voit bien les tsunamis arriver, l'onde s'est générée et perturbée très fortement la haute atmosphère. Donc c'est après des satellites qui vont croiser en fait la zone perturbée par l'onde de gravité qui a été générée par les tsunamis. Et en la croisant, en fait, il nous permet de mesurer sa présence. Justement, c'était avec ces mesures et ces modèles faits en 2004 qu'on a pu valider les liens stricts qu'il y a entre les tsunamis au sol et les tsunamis dans l'atmosphère.
Alors, qui a des questions ?
Vous dites qu'une vague d'un tsunami, vous dites c'est que ça n'a pas une très grande amplitude, mais qu'on peut la détecter dans la ionosphère apparemment facilement. Mais qu'est-ce qui permet de la différencier des vagues normales qui, elles, sont plus hautes et peut-être qui font aussi des perturbations dans la ionosphère ?
Très bien, c'est une très très bonne question. Et la réponse, elle est liée à la nature de ces ondes. En fait, l'onde de tsunami, même si elle a une toute petite amplitude, elle a une très grande longueur d'onde. Elle fait plusieurs centaines de kilomètres. Mais le déplacement vertical qu'ils génèrent dans l'eau est tout petit. Par contre, les vagues quotidiennes qu'ils arrivent en permanence, en fait, eux, ils ont une largeur très petite, mais ils ont beaucoup plus d'amplitude. Donc, cela fait qu'en fait, les tsunamis, lui, génèrent une onde qui se propage de l'atmosphère, là où les ondes, en fait, les ondes normales, elles ne vont pas se propager. Donc, en fait, l'atmosphère agit comme un filtre qui nettoie les petites ondes de plus grande amplitude, mais garde l'information qui est liée au tsunami.
Comment vous parvenez à détecter cette onde, compte tenu du fait qu'il y a des vents qui peuvent perturber l'onde ?
En fait, ça c'est une autre partie du travail de recherche qu'on est en train de mener, c'est-à-dire essayer de voir l'influence des vents à l'intérieur de la propagation de l'onde. On s'aperçoit que la présence des vents, en fait, elle va changer l'amplification de la vague, c'est-à-dire de la vague en altitude, mais elle va quand même garder la présence de la vague. Donc, les vents, ils vont pas faire disparaître la vague, mais ils vont moduler, en fait, son amplification. Donc, l'idée, en fait, les problèmes sur lesquels on est en train de se focaliser en ce moment, c'est entre la reconnaissance et l'identification. C'est comme si moi je me balade sans lunettes, en fait, je vois qu'il y a des gens autour de moi, mais j'arrive pas à les reconnaître. Et là, c'est la même chose qu'on est en train de faire avec ces problèmes. En regardant l'atmosphère, pour l'instant, on est sûr qu'il y a un tsunami, mais on ne connaît pas encore l'amplitude du tsunami liée à ça.
Et concrètement, ça veut dire que vous avez des satellites, Giovanni, qui sont à votre disposition pour faire ces observations ?
Ah oui, je les produis avec mes fonds personnels. Non, en fait, il y a l'avantage de cette technique, c'est que nous, on peut utiliser énormément de satellites différents. Tout satellite qui envoie une onde électromagnétique qui traverse l'ionosphère est utilisable pour cette méthode.
Donc vous branchez sur les satellites existants.
Exactement. Ouais. On va détourner l'information d'autres satellites pour la réutiliser, la réinterpréter. En particulier, on va utiliser des GPS, on va utiliser des altimètres. Et on va utiliser aussi des radars, en particulier des radars militaires qui ont des caractéristiques assez particulières. Et donc on va utiliser tous ces instruments pour sonder l'ionosphère. Donc l'intérêt de la méthode, elle est justement liée à ce détournement de l'information. Parce que finalement, il y a un nombre croissant de satellites dans l'atmosphère. Et c'est justement, c'est basant sur l'augmentation de ces satellites qu'on va densifier notre information.
Vous avez dit tout à l'heure que le séisme provoquait le tsunami. On pouvait mesurer le séisme et qu'on n'était pas sûr qu'il l'avait provoqué. Qu'est-ce qui nous manque, en fait, pour être certain qu'un séisme provoque ou pas, ou pour savoir si un séisme provoque un tsunami ?
En fait, pas tous les tremblements de terre génèrent un tsunami. Et ça, pourquoi ? C'est parce que seulement les déplacements verticaux de la surface océanique va contribuer à la formation, à la perturbation générée sur la surface de l'eau. Donc en fait, seulement un certain type de tremblement de terre vont générer un tsunami en surface. Si on a par exemple un tremblement de terre qui est très profond et qui ne génère pas de déplacement vertical de la surface océanique, ce tremblement de terre ne va pas générer un tsunami même s'il se trouve en zone océanique. Si un tremblement de terre, par exemple, se trouve très proche de la surface, mais il va générer seulement un déplacement horizontal, ce déplacement horizontal va générer un tout petit tsunami seulement s'il y a une bathymétrie en fait qui va contribuer à ça. Si le déplacement par contre il est très vertical, là on aura la possibilité de générer un très grand tsunami. Donc en fait la caractéristique du tremblement de terre, elle est liée à la génération de tsunami en surface.
Et on n'est pas capable de les différencier en fait avec tous les sismomètres qu'on a.
Bah déjà, il y a plusieurs problèmes qui rentrent en jeu dans cette détection. Première chose, souvent la densité des réseaux. La deuxième, c'est l'estimation des magnitudes. En fait, les méthodes, elles sont très entraînées à mesurer des petits tremblements de terre. Parce que vous pouvez imaginer que des petits tremblements de terre, il y a tout le temps. Par contre, des très gros tremblements de terre, il y a très peu. Donc, ils sont très rares. Donc, souvent, quand on dépasse une certaine valeur de magnitude, en fait, on n'arrive plus à estimer de façon précise la magnitude de tsunami en temps réel, de tremblement de terre en temps réel. Par exemple, dans les cas de Sumatra, que c'était finalement à magnitude 9.3, dans les premières heures, et jusque peut-être la première demi-journée, on supposait que les tremblements de terre, c'était à magnitude 8, c'est-à-dire une ordre de magnitude moins importante.
Dans le cas du tremblement de terre d'Haïti, d'ailleurs, on a évoqué la possibilité d'un tsunami. Ça veut dire que vous avez été sur vos écrans à ce moment-là pour observer ce qui se passait ?
Bah nous, on travaille, pour l'instant, vu qu'on est en phase de recherche, on travaille a posteriori. C'est-à-dire on récupère les données des satellites, et on récupère les données disponibles et on les regarde à long terme, dans les jours qui viennent, un tremblement de terre. Parce que justement, encore, la méthode, elle n'est pas une méthode sûre et surtout, elle n'est pas encore organisée en temps réel pour marcher avec les signaux d'alerte.
Bon, bah Giovanni, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Pour cet accueil. Vous. Donc, ça va être le moment pour nous de quitter l'Observatoire de Saint-Maur, de repartir sous la neige de notre côté, donc avec les élèves du lycée Condorcet de Montreuil. Et puis, pour ceux qui font partie du club Astronomie, bah, vous aurez peut-être quelques souvenirs avec cette visite ici de l'Institut. Merci beaucoup à tous. Et merci, Giovanni, pour ces explications.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Et merci à l'Université Tous les Savoirs qui organise ces rencontres entre les lycées et les chercheurs pour la Tête au Carré. L'UTLS qui organise tout au long de l'année des conférences scientifiques pour les lycées, mais aussi pour le grand public. Tout le programme de leurs conférences est sur le site utls.fr qui est en lien, bien sûr, sur la Tête au Carré.